Leçon 3. Observation. Regard sur des sections plus larges. Objectif de la leçon. 1. Reconnaître l'importance du contexte lors de la lecture de l'écriture. 2. Devenir de plus en plus sensible au but et à l'intention des auteurs bibliques en observant les détails qui sont soulignés dans un livre. 3. S'entraîner à faire des observations sur de plus larges sections de l'écriture. 4. Recueillir des informations dans un tableau pour une étude plus approfondie. Introduction. Certaines lectures sont sans importance. Nous lisons un roman pour passer le temps en voyage. D'autres sont d'importance mineure. Nous lisons le journal pour nous tenir au courant de notre monde. D'autres encore sont d'une importance éternelle. Nous lisons la Bible pour entendre la voix de Dieu. Paul a écrit que l'écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3, 16 à 17. C'est pour cette raison que nous lisons attentivement la Bible et écoutons Dieu parler. Dans la leçon 2, nous avons fait des observations sur des versets individuels. Dans cette leçon, nous étudierons des passages plus larges. Il peut s'agir de paragraphes, de chapitres ou d'un livre entier. Dans un récit historique, un passage plus large peut constituer une histoire entière. Dans les évangiles, nous pouvons étudier une parabole, un miracle ou un sermon. Dans une épître, un passage plus large peut constituer une unité centrée sur un thème unique. À l'origine, la Bible n'était pas divisée en chapitres et en versets. Au XIIIe siècle, Stephen Langton la divisa en chapitres pour faciliter son étude. Au XVIe siècle, Robert Estienne imprima une Bible divisée en versets. La division en chapitres et en versets nous aide à étudier la Bible. Cependant, elle ne correspond pas toujours à la division naturelle du texte. Ne laissez pas la division en chapitres dominer votre étude. Suivez la division naturelle du texte en paragraphes logiques. Dans cette leçon, nous étudierons un paragraphe, Néhémie 1, 4 à 11. Cela vous servira de modèle pour vos études futures. Nous découvrirons plusieurs façons d'étudier un paragraphe. Sachez que tous les types d'études ne conviennent pas à tous les livres. Cette leçon vous fournira une boîte à outils. Lorsque vous étudierez un livre de la Bible, vous devrez décider quel est l'outil le plus adapté à ce livre. Trouvez le contexte d'un paragraphe, Néhémie 1, 4 à 11. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Lorsqu'on étudie un paragraphe, il faut déterminer le contexte dans lequel le paragraphe se situe. Néhémie 1, 4 renvoie au début du chapitre. Lorsque j'entendis ces choses nous obligent à regarder les versets précédents pour découvrir quelles choses Néhémie avait entendu et qui avait provoqué sa réaction. Néhémie 1, 1 fournit le contexte du livre de Néhémie. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. La leçon 2 a donné des questions à poser lors de l'étude de ce verset. Qui, Néhémie, fils de Hakalia? Un autre Néhémie est mentionné plus loin dans ce livre, Néhémie 3, 16. Le nom de famille, fils de Hakalia, indique à quel Néhémie il est offert référence ici. Quand? Au mois de Kisle, la 20e année. D'après un dictionnaire biblique, nous apprenons que le mois hébreu de Kisle est l'équivalent de novembre à décembre. International Standard, Bible Encyclopédia, Kislev, studylight.org. La 20e année, cela ne nous dit pas grand-chose car nous ne savons pas si l'auteur fait référence à la 20e année de la vie de Néhémie, à la 20e année d'un événement historique ou à une autre référence. À ce stade, nous pourrions mettre un point d'interrogation à cette phrase. Dans Néhémie 2, nous apprendrons la réponse « la 20e année du roi Artaxerxès ». Néhémie commence en novembre-décembre de la 20e année du règne du roi Artaxerxès. Où Néhémie était à Suse, dans la capitale. Un dictionnaire biblique ou un atlas nous apprend qu'il y avait deux palais en Perse. Le palais d'été se trouvait à Yekbatana. Le palais d'hiver était un palais luxueux à Suse. Le livre commence alors que Néhémie était avec le roi Artaxerxès dans son palais d'hiver à Suse. Si vous étudiez un texte sur votre ordinateur, il peut être utile de reformater le paragraphe pour montrer le lien entre chaque phrase. Le paragraphe Néhémie 1.1 ressemblera alors à ça. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, le verset 1 donne le contexte du livre de Néhémie. Les versets 2 et 3 montrent le contexte de la prière de Néhémie. Néhémie était à Suse. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Néhémie les interrogea au sujet de deux des choses. Je les questionnais. Au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. En réponse, les hommes de Juda rapportèrent deux problèmes. Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Cela montre les problèmes qui ont motivé la prière de Néhémie. Après avoir étudié le contexte de la prière, nous sommes prêts à commencer à faire des observations sur la prière elle-même. Que rechercher lors de la lecture d'un paragraphe ? Vos observations dans un paragraphe dépendront du style du passage. Un récit historique comprendra des questions telles que le qui, quoi, quand et où. Un passage doctrinal comprendra des questions liées à l'enseignement. Une grande partie du contenu de cette section est adaptée du chapitre 4 de J. Scott Duval et J. Daniel Hayes, Grasping God's Word, Grand Rapids, Zondervan, 2012. Néhémie 1, 5 à 11 est une prière. Sa prière comprend « Louange, ô Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Confession pour les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Requête basée sur la promesse de Dieu, mais si vous revenez à moi, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » À ce stade, il est important de noter des détails inhabituels dans le passage. La prière de Néhémie est suivie d'un détail biographique « J'étais alors échanson du roi ». Cela semble sans importance au premier abord, mais cette information deviendra importante au fur et à mesure que le récit se déroule. Si nous étudions le terme « échanson » dans un dictionnaire biblique, Holman Bible Dictionary, Cupbearer, Studylight.org, nous apprenons qu'un échanson était plus qu'un simple serviteur. C'était un officier de haut rang et un confident de confiance du roi. J.D. Douglas, New Bible Dictionary, seconde édition, Wheaton, Tyndale House, 1982. Quel détail faut-il observer dans un paragraphe ? Soyez attentifs à relation entre idées générales et détails spécifiques. De nombreux paragraphes commencent par un aperçu général, puis sont développés avec des détails spécifiques. Ces détails étaient l'énoncé général par des explications complémentaires. Les relations entre idées générales et détails spécifiques sont fréquentes dans les épîtres de Paul. Galates 5:16 oppose la vie dans l'esprit à la vie dans la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cette affirmation générale est ensuite appuyée par une série de précisions. Galates 5, 19 à 21 identifie les œuvres de la chair. Galates 5, 22 à 23 identifie le fruit de l'esprit. Certains récits suivent de le modèle général vers le modèle spécifique. Genèse 1 et 2 suivent ce modèle passant d'une déclaration générale à des détails précis. Cela se décline en trois étapes. 1. Genèse 1. 1 donne la déclaration générale au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. 2. Genèse 1, 3 à 30 et 1 donne plus de détails sur la création. Le premier jour, Dieu créa la lumière. Le deuxième jour, Dieu sépara l'eau d'avec les cieux et ainsi de suite. 3. Genèse 2 est encore plus précis. Le narrateur passe de la création générale du monde à la création spécifique de l'homme. Le récit se rétrécit du monde entier à un lieu précis, le jardin d'Éden. Même le nom de Dieu change. Genèse 1 utilise le nom Dieu, un nom universel de puissance. Genèse 2 utilise le nom Seigneur Dieu, un nom personnel montrant sa relation intime avec Adam et Ève. Le nom hébreu, Elohim, est traduit par Dieu dans les Bibles françaises. C'est un nom universel et majestueux. Le nom hébreu Yahvé est traduit par Seigneur dans les Bibles françaises. C'est le nom personnel révélé dans Exode 3, 14. Ce modèle va généralement du général au particulier. L'ordre est parfois inversé, du particulier au général. Dans 1 Corinthiens 13, Paul donne les détails de l'amour au verset 1 à 12. Le chapitre se termine par une déclaration générale qui résume l'enseignement Paul. « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Section de questions et réponses. Lorsqu'un paragraphe commence par une question, la question montre la signification du reste du paragraphe. Ce format est courant dans Romains. À ceux qui soutiennent que la grâce permet une vie dans le péché, Paul demande « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Romains 6, 1. Il montre ensuite que la grâce de Dieu donne le pouvoir aux chrétiens pour la victoire sur le péché. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Romains 6, 2. L'Évangile selon Marc utilise fréquemment cette structure. Dans Marc 2, 1, 3, 6, 5 épisodes commencent par des questions. À 4 reprises, des opposants posent une question. Chaque fois, Jésus répond par une défense. Dans le dernier épisode, Jésus pose une question à laquelle les pharisiens sont incapables de répondre. Remarquez comment cela fournit une structure à cette large section. Sans cela, nous lisons 5 récits distincts. Lorsque nous observons la structure formée par les questions et les réponses, les 5 récits offrent un témoignage unique de l'autorité messianique du Fils de l'homme. 1. Guérison d'un paralytique, Marc 2, 1 à 12. Question : qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Réponse : Jésus montre son autorité en guérissant l'homme paralysé. 2. Manger avec les pécheurs, Marc 2, 13 à 17. Question : pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? Réponse : je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. 3. Jeûne, Marc 2, 18 à 22. Question : pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? Réponse : aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent déjeuner. 4. Loi du sabbat, Marc 2, 23 à 28. Question : pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ? Réponse : le Fils de l'homme est maître même du sabbat. 5. Guérison le jour du sabbat, Marc 3, 1 à 6. Question : est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal ? Réponse : les adversaires de Jésus restèrent sans voix. Dialogue. Les évangiles décrivent fréquemment des dialogues entre Jésus et son entourage. Nous pouvons mieux comprendre l'enseignement de Jésus en nous posant des questions telles que « Qui sont les participants au dialogue ? Quel spectateur écoute la conversation ? Comment réagissent-ils ? Quel conflit ou quelle situation a provoqué le dialogue ?» Matthieu 21, 23, 22, 46 présente une série de dialogues entre Jésus et ses adversaires. Chaque groupe posait des questions destinées à piéger Jésus. Premièrement, les chefs religieux ont remis en question son autorité. Matthieu 21, 23 à 46. Les pharisiens et les hérodiens, généralement ennemis jurés, se sont unis pour le piéger avec une question sur les impôts. Matthieu 22, 15 à 22. Les sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection, ont posé une question sur le mariage après la résurrection. Matthieu 22, 23 à 32. Les pharisiens essayèrent encore une fois avec une question sur les commandements. Matthieu 22, 34 à 40. Finalement, Jésus mit fin à la confrontation en leur posant une question à laquelle ils ne purent répondre. Matthieu 22, 41 à 46. La foule regardait comment chaque groupe essayait de piéger Jésus et elle a vu comment Jésus a fait taire chaque interlocuteur. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Matthieu 22, 33. Le dialogue est important dans le livre de Job. Ce livre comprend des conversations entre Dieu et Satan, entre Job et ses amis, et entre Job et Dieu. Le livre d'Habacuc est entièrement constitué d'un dialogue entre le prophète et Dieu. Le livre est ainsi structuré. Question d'Habacuc. Pourquoi Dieu tolère-t-il le péché de Juda ? 1, 1 à 4. Dieu répond : Babylone vaincra Juda. 1, 5 à 11. Question d'Habacuc. Comment Dieu utilisera-t-il la méchante Babylone pour juger Juda ? 1, 12, 2, 1. Dieu répond : Habacuc doit vivre par la foi dans les desseins de Dieu, de 2 à 20. Ton émotionnel. Le ton émotionnel fait référence aux émotions exprimées par l'auteur. L'écriture est plus qu'une information abstraite. C'est le récit de la relation entre un Dieu d'amour et le peuple qu'il a créé. Une telle relation intime implique des émotions. Les lecteurs soigneux font attention aux émotions de l'auteur. Pour trouver le ton émotionnel d'un paragraphe, recherchez les mots qui véhiculent une émotion : réjouir, mépriser, pleurer. Ou une relation père-fils-fille. Écoutez l'esprit de l'auteur et des personnages du récit. Lisez Philippiens 1, 1 à 8, puis Galates 1, 1 à 9. Quel est le ton émotionnel de chaque passage? De ces introductions, que pouvez-vous déduire sur la relation de Paul avec l'église de Philippe et avec les églises de Galatie? Que rechercher lors de la lecture d'un livre entier? Lors de la lecture d'un livre entier, nous recherchons sa structure et ses thèmes principaux. Voici quelques éléments à observer à ce stade. Éléments sur lesquels l'accent est mis. Nous pouvons trouver ce qui est mis en avant dans un livre en observant. La quantité d'espace. La place qu'un livre accorde à un sujet révèle souvent ce qui est important pour l'auteur. Dans Genèse, quatre personnages, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, sont étudiés au chapitre 12 à 50. À titre de comparaison, seuls 11 chapitres couvrent l'intégralité du récit de la création, de la chute, du déluge et de la tour de Babel. Relever ce détail à l'étape de l'observation nous préparera à nous demander « pourquoi ?» à l'étape de l'interprétation. En lisant le livre de Néhémie, nous remarquons que la prière y occupe une place centrale. À chaque moment important de sa vie, Néhémie priait. En remarquant cela, nous sommes mieux préparés à comprendre le caractère de Néhémie. Le but visé. Dans certains livres, l'auteur nous explique le but de son écriture. Le livre des Proverbes commence par une longue déclaration sur le but de Salomon en écrivant ce recueil de sagesse, Proverbes 1, 2 à 6. L'évangile de Jean énonce son but, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean 20, 31. L'organisation du contenu. Dans les récits historiques, l'organisation du contenu peut montrer l'objectif de l'auteur. 2 Samuel 1 à 10 raconte l'histoire du règne triomphal de David. 2 Samuel 11 relate le péché de David avec Bathsheba. À partir de ce moment, 2 Samuel retrace les maux qui frappent le royaume de David. L'auteur de 2 Samuel montre que ces maux constituent le jugement de Dieu pour le péché de David. Néhémie est découpé en 3 grandes sections. Dans Néhémie 1er à 6, Néhémie reconstruit les murailles de la ville. Néhémie 7 à 12 énumère les exilés qui sont revenus à Jérusalem et raconte le renouvellement de l'Alliance. Néhémie 13 a abordé les problèmes survenus après le second retour de Néhémie à Jérusalem. Cet ordre montre que la reconstruction physique des murailles n'était pas suffisante. Juda avait besoin d'un renouveau spirituel pour résoudre les problèmes originels qui avaient conduit à l'exil. Des choses qui se répètent. La répétition est une autre façon pour un auteur biblique de mettre l'accent sur un élément. Terme ou expression répétée. Le mot « souviens-toi » est répété tout au long du livre de Néhémie. Néhémie demande à Dieu « Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. » Néhémie 1, 8. Lorsque les habitants de Jérusalem sont menacés, Néhémie leur dit « Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. » Néhémie 4, 14. À 3 reprises, Néhémie prie pour que Dieu se souvienne de lui et de sa fidélité. La mémoire est importante pour Néhémie. Ce que Dieu a fait dans le passé donne confiance en sa fidélité future. Lisez Psaume 119, 1 à 32. Chaque verset utilise un terme faisant référence à la parole de Dieu. À partir de là, dressez une liste montrant ce que le psalmiste croyait de l'importance de la parole de Dieu. Personnage récurrent. Barnabas réapparaît à des moments clés du livre de Actes. Chaque fois, Barnabas fait honneur à son surnom, fils d'exhortation, acte 4, 36. Barnabas amène Saul aux apôtres et témoigne de la vérité de la conversion de Saul, acte 9, 27. Avec Saul, Barnabas édifie l'église d'Antioche, acte 11, 22 à 26. Malgré les doutes de Paul, Barnabas encourage un Jean-Marc immature, acte 12, 25 et acte 15, 36 à 39. Les apparitions répétées de Barnabas dans Actes démontrent comment l'Église primitive a rempli la mission de Jésus de faire des croyants des disciples. Incidents ou circonstances répétées. Le livre de Juges comprend une série de récits illustrant le déclin d'Israël, depuis les grandes victoires sous la direction de Josué, jusqu'au chaos social. 7 fois se répète un cycle où les enfants d'Israël font ce qui déplaît à l'Éternel et sont vaincus par leurs ennemis. À chaque fois, Dieu suscite un juge qui les libère. Ce récit répété illustre le déclin constant de la nation. Changement d'orientation. Un changement de direction est un changement d'orientation de l'auteur. Par exemple, l'orientation des épîtres de Paul change souvent vers le milieu du livre. Éphésiens commence par mettre l'accent sur ce que Dieu a fait pour son peuple. La seconde moitié d'Éphésiens met l'accent sur ce que le peuple de Dieu doit faire pour obéir à Dieu. Dans Éphésiens 1 à 3, les verbes descriptifs montrent ce que Dieu a fait pour son peuple. Dieu nous a bénis, Éphésiens 1, 3, 6, élus, Éphésiens 1, 4, prédestinés pour que nous soyons sauvés, Éphésiens 1, 5. À partir d'Éphésiens 4, 1, Paul aborde la responsabilité du croyant de vivre d'une manière digne de l'œuvre rédemptrice de Dieu pour nous. Dans Éphésiens 4 à 6, beaucoup de verbes sont à l'impératif. Paul nous ordonne « parle selon la vérité », Éphésiens 4, 25, « n'attristez pas le Saint-Esprit », Éphésiens 4, 30, « marchez dans la charité », Éphésiens 5, 2, « vous conduire avec circonspection », Éphésiens 5, 15, « honore ton père et ta mère », Éphésiens 6, 2, « revêtez-vous de toutes les armes de Dieu », Éphésiens 6, 11. Le changement d'orientation, de la réjouissance de ce que Dieu a fait pour nous, à la manière dont nous devons vivre en réponse à sa grâce, se manifeste dans les verbes. Observer attentivement ces changements nous préparera à interpréter correctement le message de Paul dans Éphésiens. Structure littéraire. Bien qu'il existe de nombreux moyens différents par lesquels un livre peut être organisé, trois types de structures littéraires sont faciles à reconnaître. Ce document est adapté du chapitre 15 de Howard G. Hendrix et William D. Hendrix, Living by the Book, Chicago, Moody Publishers, 2007. Structure biographique. Les livres historiques sont souvent organisés autour de personnages précis. L'histoire est basée sur les événements de la vie d'une personne. Par exemple, Genèse 12 à 50, quatre grands personnages. Genèse 12 à 25, Abraham. Genèse 25 à 26, Isaac. Genèse 27 à 36, Jacob. Genèse 37 à 50, Joseph. Un premier et deuxième Samuel retracent l'ascension et la chute des deux premiers rois d'Israël, Saül et David. 1 Samuel 1 à 8, prophète Samuel. 1 Samuel 9 à 12, ascension de Saül. 1 Samuel 13 à 31, chute de Saül et ascension de David. 2 Samuel 1 à 10, succès de David. 2 Samuel 11 à 24, lutte de David. Structure géographique. La géographie fournit une structure à certains livres. L'histoire progresse au fil des événements qui se déroulent dans différents lieux géographiques. Un atlas biblique aidera à définir la structure de ces livres. Exode, Voyage d'Israël, Exode 1, 1, 3, 16, Israël en Égypte, Exode 13, 17, 18, 27, Israël dans le désert, Exode 19 à 40, Israël au Mont Sinaï. Jésus a envoyé ses disciples pour être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, Acte 1, 8. Le livre de Actes retrace l'accomplissement de cette mission par l'Église primitive. Actes, l'Évangile atteint le monde. Actes 1 à 7, Jérusalem. Actes 8 à 12, Judée et Samarie. Actes 13 à 28, les extrémités de la terre. Structure historique ou chronologique. Certains livres sont structurés autour d'événements historiques clés, généralement classés par ordre chronologique. Le marquage de ces événements permet d'avoir une vue d'ensemble du livre. Le livre de Josué retrace la conquête et la colonisation de Canaan. La structure de Josué suit les principaux événements de la conquête. La traversée de Canaan, Josué 1 à 5. Le prise de Jéricho, Josué 6. La défaite à Haï, Josué 7 à 8. Le renouvellement de l'Alliance à Sichem, Josué 9. La campagne du Sud, Josué 10. La campagne du Nord, Josué 11 à 12. Le partage et le peuplement du territoire, Josué 13 à 23. Le renouvellement de l'Alliance à Sichem, Josué 24. Le but de Jean en écrivant son évangile est exposé à la fin du livre. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 30 à 31. L'évangile de Jean est organisé autour de sept miracles qui accomplissent son objectif. Ces sept signes fournissent une structure pour l'ensemble du livre. Changer l'eau en vin, Jean 2, 1 à 12. Guérir le fils d'un officier, Jean 4, 46 à 54. Guérir l'homme à Bethesda, Jean 5, 1 à 47. Nourrir les 5000, Jean 6, 1 à 4. Marcher sur l'eau, Jean 6, 15 à 21. Guérir l'aveugle-né, Jean 9, 1 à 41. Ramener Lazare à la vie, Jean 11, 1 à 57. Voir la situation dans son ensemble. Jusqu'à présent, nous avons observé des détails sur des versets individuels, des paragraphes plus larges et des livres entiers. Le contenu de cette section est basé sur les chapitres 24 et 25 de l'ouvrage de Howard G. Hendrix et William D. Hendrix, Living by the Book, Chicago, Moody Publishers, 2007. La dernière étape de l'observation consiste à organiser les observations dans un format facile à utiliser. L'une des meilleures façons d'y parvenir est de présenter le contenu sous forme de tableau récapitulatif. Cela permet de mettre en évidence les liens entre les grandes sections de l'écriture et d'obtenir un résumé clair en préparation à l'étape d'interprétation de l'étude biblique. Il existe de nombreuses façons d'organiser ce tableau. Les catégories incluses dans un tableau dépendent du style du passage étudié. Dans cette section, nous utiliserons plusieurs types de tableaux pour montrer comment un tableau peut être utile à l'étude de la Bible. Cartographie d'une série d'événements connexes. Il a été mentionné précédemment que la division des chapitres ne correspond pas toujours à la structure d'un livre. Un tableau présentant les relations entre les événements peut montrer l'unité d'une série d'événements répartis sur plusieurs chapitres. Il permet souvent de comparer ou de contraster les événements. Marc 4, 35, Marc 5, 42 présente une série de quatre miracles. En comparant ces quatre récits, vous constaterez le contraste entre le manque de foi des disciples de Jésus dans la tempête et la foi de personnes inattendues. Un homme possédé par un démon, une femme atteinte d'une perte de sang et le chef de la synagogue. Marc montre que les disciples sont témoins oculaires de chacune de ces histoires de grande foi. Comparez ces quatre récits, quatre miracles. Le miracle, calmer une tempête. Personnage de l'histoire, Jésus, les disciples, rôle de la foi. Les disciples n'ont pas la foi, Marc 4, 40. Le miracle, guérir l'homme possédé par un démon. Personnage de l'histoire, Jésus, l'homme possédé par un démon, les habitants de la ville, les disciples, regardant, rôle de la foi, l'homme adore Jésus, Marc 5, 6, et témoigne de Jésus, Marc 5, 18 à 20. Les habitants de la ville rejettent Jésus, Marc 5, 10. Le miracle, guérir une femme à la perte de sang. Personnage de l'histoire, Jésus, la femme, les disciples, regardant. Rôle de la foi, la femme a la foi et prend l'initiative de toucher Jésus, Marc 5, 28, 34. Le miracle, ressusciter la fille de Jaïrus. Personnage de l'histoire, Jésus, Jaïrus et sa fille. Les personnes en deuil, Pierre, Jacques et Jean. Rôle de la foi, Jaïrus a la foi, Marc 5, 23. Cartographie d'un livre entier. Un tableau peut être utile pour résumer un livre entier. Il permet d'en avoir une vue d'ensemble. Pour préparer un tableau, lisez le livre en entier plusieurs fois. Repérez les grandes sections. Au fil de votre lecture, marquez les mots répétés, les questions et réponses, ainsi que les autres relations qui illustrent la structure du livre. Étude de 1 Pierre, encouragement pour les saints souffrants. Le salut 1, 1, 2, 10. Les privilèges du salut 1, 2 à 12. Les produits du salut 1, 13 à 25. Le processus du salut 2, 1 à 10. Le destin du chrétien, soumission 2, 11, 3, 12. Dans l'état 2, 13 à 25. Dans la famille 3, 1 à 12. Le devoir du chrétien, souffrance 3, 13, 5, 11. En tant que citoyen 3, 13, 4, 6. En tant que croyant 4, 7 à 19. En tant que berger 5, 1 à 11. La discipline du chrétien. Les trois grandes sections de 1 Pierre sont liées. Nous ne comprendrons jamais la souffrance, 3, 13, 5, 11, tant que nous ne nous serons pas soumis à la volonté du Père, 2, 11, 3, 12. Nous ne nous soumettrons jamais au Père tant que nous n'aurons pas connu sa puissance salvatrice, 1, 1, 2, 10. Leçon 3, point clé. 1. Vous poursuivez le processus d'observation en étudiant un paragraphe, puis un livre entier. À l'origine, la Bible n'était pas divisée en chapitres et en versets. Vous devez vous assurer de suivre la division naturelle du texte dans votre étude. 2. Lorsque vous lisez un paragraphe, recherchez relations entre idées générales et détails spécifiques. Section de questions et réponses. Dialogue, ton émotionnel. 3. Lorsque vous lisez un livre entier, recherchez éléments sur lesquels l'accent est mis. L'auteur peut mettre en valeur certains éléments avec un tiré. La quantité d'espace. Le but visé, l'organisation du contenu, des choses qui se répètent, termes ou expressions répétées, personnages récurrents, incidents ou circonstances répétées, changement d'orientation, structure littéraire, structure biographique, structure géographique, structure historique ou chronologique. 4. Faire un tableau d'une section de l'écriture ou d'un livre entier peut clarifier la structure.